Africa. Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole sur Africa Radio. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, c'est la libre antenne du journal des auditeurs. C'est vous qui faites le sommaire, c'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer. Nous reviendrons normalement sur la situation au Cameroun avec les conflits dans les zones anglophones, mais aussi dans l'extrême nord. Avec Tassek Boko Haram, nous parlerons aussi peut-être du terrorisme au Burkina Faso. Hein, mais venez vous exprimer sur le sujet de votre choix. Je rappelle le numéro pour participer, 33 1 55 07 58 00, 33 1 55 07 58 00. Avant cela, on écoute les messages que vous nous avez laissés sur le répondeur d'Africa Radio.
Africa. Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Bonjour Madame Hartmann, bonjour les amis des JDA, le peuple africain, tous ceux qui aiment la République démocratique du Congo. Le Premier ministre est nommé Sylvestre Ilunga, c'est le Premier ministre de tous les Congolais, non, le Premier ministre d'un groupe de gens que nous dénonçons toujours dans le pays pour que les gens ne veulent pas que le pays avance. C'est tout le peuple RD qui sont restés au pouvoir pendant 18 ans. Ils n'ont rien fait au Congo, ils ont détourné, ils ont massacré le peuple congolais. Ils ont tué, ils ont violé les femmes, mais elles veulent toujours rester au pouvoir. Peuple congolais, notre pouvoir est confisqué par un groupe de gens que nous sommes en train de dénoncer, mais l'article 64 que nous dénonçons est toujours en vigueur et ce n'est pas encore fini. Nous allons déboulonner tous ces gens-là qui ne veulent pas que le Congo soit avancé ou bien que le Congo soit vraiment redressé par des dirigeants qui ont la volonté de faire avancer les Congos. C'est nous, la nouvelle classe politique, que nous sommes en train de parler tous les jours, jour et nuit, pour vous informer que nous serons aux affaires et nous allons faire marcher la République démocratique du Congo. Aïkomo Pongi, résistant combattant, RCK.
Oui, bonjour, amis des JDA, et bonjour, Madame Stéphane Hartmann. Politicien congolais ou politicienne congolaise de la RDC. Vous avez détruit le pays depuis 2001. Vous avez volé l'argent du peuple et vous avez pillé le pays jusqu'au fond. Peuple congolais, soyons vigilants. Emmanuel Ramazani se permet de féliciter M. Ilunga. Tant que Premier ministre, Emmanuel Ramazani se dit que M. Ilunga n'oublie jamais parce qu'il vient de PPRD. Et ils sont maintenant au chômage. C'est regrettable comme politicien.
Bonjour amis de JDA, Africa Radio, c'est M. Djavi. Je vais parler aujourd'hui malien. Vous voyez G5, ils ont venu faire quoi G5 à Badlabougou, au plein quartier de Bamako. Qu'est-ce qu'ils ont venu faire là-bas? Il n'a rien à faire au quartier de Bamako. Où y a les combattants? Ils ne vont pas là-bas. Ils viennent emmerder des populations qui nous entraînent nos enfants à boire l'alcool, d'entraîner nos enfants à prostituer, ils sont venus G5, ils sont venus uniquement que ça. Je demande tout ce qui est musulman, je demande tout ce qui est un bon chrétien, en tant que malien, levez-vous de chasser ces gens-là, de quitter à Badlabougou. Vraiment, on en a assez avec G5. S'ils ne sont pas où y aller, ils ont été séparés, ils ont peur des djihadistes, ils sont venus à Badlabougou. Je demande à tous les maliens, ce n'est pas des polémiques, levez-vous de chasser ces gens-là, de quitter à Badlabougou. Merci, amis de Guinée, c'est M. Djavi.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en composant le 33 1 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, c'est la libre antenne. Alors, un petit tour du côté du standard, on va revenir sur la Centrafrique, on va parler aussi des affrontements communautaires à Béomi en Côte d'Ivoire et on reviendra également sur la crise, la guerre hein, au Cameroun. On commence tout de suite avec la Côte d'Ivoire, avec Momo de Londres. Bonjour Momo.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur. Vous vouliez intervenir, hier on parlait hein, d'affrontements intercommunautaires en Côte d'Ivoire dans la région de Béomi. Vous vouliez réagir sur cette actualité.
Exactement. Moi je voulais donner en fait ma pensée sur ce qui s'est passé à Béomi. Je voulais d'abord dire que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de trucs-là. Je crois qu'il y a au moins 6 ou 7 occasions dans différentes parties de la Côte d'Ivoire, il y a eu ces genres d'affrontements. Mais nous n'avons pas vu une justice pour essayer de comprendre et de punir ceux qui étaient à la base. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'eux-mêmes ils peuvent régler certains problèmes. Mais dans le même temps, si je voulais souligner, faire remarquer aux uns aux autres que pour ne plus qu'on ait ce genre de situation, il faudrait que depuis le haut, tout le monde demande pardon, à commencer par le premier citoyen de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'impression que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ces dernières années, personne ne s'en met responsable. Tout le monde essaie de blâmer l'autre. Peut-être que si, depuis le premier citoyen, il demande pardon, comme l'a fait le leader Soro Guillaume, pour des actions qu'il a pu poser de façon volontaire, involontaire, etc. Peut-être que ça va un peu raffermir les cœurs. Et si chacun de ces politiciens essaie d'aller dans ce sens-là, je pense que d'abord, ça va d'abord ramener la tension. Voilà, ça va faire descendre la tension. Et aussi, il faudrait que la justice, à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui se passent, il faudrait que la justice fasse son travail sans parti pris. Parce que ce qu'on voit actuellement, on a au niveau politique, on a un problème parce que ce qu'on comprend, ce qu'on voit, c'est que même le parti qui est leader en Côte d'Ivoire aujourd'hui a créé la division dans tous les autres partis de l'opposition. Donc ça fait que ça descend dans la société sans qu'on se rende compte. Ça descend dans la société, ça descend dans les ménages, ça descend dans la communauté. C'est vraiment grave. Je pense qu'il est encore temps qu'on se ressaisisse et qu'on essaie de mettre des actions en place pour essayer de créer une nation. Mais cela va passer par la justice, par le pardon, pour qu'il y ait une réconciliation. C'est ce que je voulais dire, pour être un peu bref.
Merci Momo de Londres, Momo qui revenait sur les affrontements intercommunautaires en Côte d'Ivoire, et qui dit voilà, il faut le pardon. Il y a Christophe aussi qui a envoyé dans le contexte de Béomi un message. Le tribalisme est une réalité choquante en Côte d'Ivoire. L'Ivoire a été créée par l'ancien président Bélier, est aussi mauvais que le rattrapage ethnique créé par le président Ouattara. Le problème est la source de nos discordes. Si on suivait le système chinois où la terre appartient à l'État, on aurait moins de problèmes. Voilà, Christophe qui pointe du doigt les questions foncières. On va parler désormais du Cameroun avec Serge. Bonjour Serge.
Oui, allô?
Oui, bonjour Serge.
Oui, bonjour Madame Stéphanie.
Alors, vous voulez revenir peut-être sur la guerre qui touche les zones anglophones?
Oui, effectivement, Madame Stéphanie, si vous le permettez, je voulais parler plus précisément de la crise dite anglophone, mais en même temps, par ricochet, j'aurais aussi un peu dit, en fait, je voudrais dire aussi deux mots par rapport à la crise post-électorale, s'il vous plaît.
Bien sûr.
Alors, je vais commencer par la crise dite anglophone, en fait, qui sévit au nord et au sud, sud-ouest du Cameroun. Pour dire quoi, Madame Stéphanie? Pour dire qu'on en a marre. On en a vraiment marre. Moi, je suis du centre. J'en ai marre de cette crise. J'en ai marre et j'interpelle plus précisément. C'est-à-dire que je suis fatigué parce que de compter des morts tous les jours, les deux côtés, quand je dis les deux côtés, c'est d'un côté en fait, parce que j'entends les gens dire du côté alors que c'est les Camerounais qui meurent. Que ce soit ceux de l'armée, en fait, ce qu'on appelle de l'armée, tous nos parents, on est tous un membre de la famille qui est dans l'armée, qui est dans la police, et des gens qui se font tuer tout le temps. On a des innocents, des civils qui meurent tous les jours. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, je dis stop, mais vraiment, j'interpelle en même temps le président de la République pour lui dire d'arrêter cette guerre. Et moi, je suis catégorique là-dessus. Je demande au président, à la limite, même si beaucoup ne le veulent pas, que le président envoie des troupes pour qu'on en finisse avec cette guerre, que les troupes de l'armée camerounaise rentrent même dans les forêts et qu'on arrête ce bain de sang. Je vous dis pourquoi je vous dis ça, Madame Stéphanie. Je vis en France, mais vraiment, je vis en France, mais j'ai mal quand j'entends cette guerre qui se déroule Au Cameroun, on n'a pas qu'une seule guerre. On a le nord, on a du côté de la Centrafrique, c'est-à-dire à l'est. Mais nous ne pouvons plus, on n'a rien demandé à personne. Nous voudrons vivre en paix. Moi, j'ai la nationalité française, mais comprenez-le, Madame Stéphanie, je vis très très mal cette guerre. Je la vis très très mal parce que les gens innocents meurent tous les jours. Là, vous avez, on a tué une petite fille de 4 mois dernièrement. Alors, tout le monde se rejette là-bas, l'armée d'un côté, les rebelles de l'autre côté. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous tuez des adultes, c'est pareil que tuer un enfant. Alors que les gens arrêtent de penser que parce que c'est un enfant de 4 mois que ça toucherait plus les cœurs. Non, c'est un faux débat. C'est des Camerounais qui meurent. Alors aujourd'hui, je demande au président d'envoyer l'armée, mais vraiment d'envoyer l'armée, et qu'on n'arrête pas une fois pour toutes que l'armée rentre même dans la brousse, parce que ces gens-là se trouvent dans la brousse, et qu'on laisse les gens vivre dignement, et qu'ils choisissent par la voie démocratique ceux qui veulent élire, et qu'on change aussi, en même temps, j'interpelle le président de la République, qu'on change le code électoral, que ça soit beaucoup plus, comment je pourrais dire, plus visible ou plus... oh là là, je perds mes mots, Madame Stéphanie. Maintenant,
on a compris, on entend plutôt Stéphanie, beaucoup je d'émotions.
Je finis avec le,
s'il vous plaît.
La crise post-électorale. Je demande plus précisément au RMC, au MRC, d'arrêter cette comédie. Il y a eu une élection. Le Conseil constitutionnel a décidé, maintenant qu'il y ait eu fraude ou pas, on attend le président. Paul Biya n'est pas éternel, il partira, et qu'on arrête de prendre le peuple en otage. Parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé le décidé du 20 mai étant en France, je n'ai pas entendu un seul instant un président d'un pays quelconque envoyer une lettre de remerciement ou de félicitations au président Kamto, le président du MRC, qu'on arrête et que ces gens-là se remettent sur le droit chemin et qui préparent les prochaines élections législatives, municipales, tout ce que vous voulez,
plus tard
présidentielles. Et c'est tout ce qu'on leur demande. Le peuple en a marre. Tous ces gens-là nous foutent la paix. Mais vraiment, on a envie de vivre tranquillement. On aime notre pays tous. Et qu'on arrête, ces politiciens sont en train de nous pourrir la vie.
Merci Serge, on a bien compris Serge, votre émotion, beaucoup d'émotion dans les propos de Serge qui s'inquiétait de la guerre au Cameroun. Merci beaucoup Serge, on continue de parler du Cameroun avec Martial. Martial, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Marcel, vous avez entendu Serge finalement qui était plus dans l'émotion que dans l'analyse. J'ai pas eu le temps de lui demander ce qu'il pensait peut-être de l'offre de dialogue, parce qu'on parlait de la guerre dans les zones anglophones. Le Premier ministre a fait un séjour dans les zones anglophones pour proposer un dialogue. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce dialogue et va-t-il aboutir surtout ?
Mais écoutez, Madame Stéphanie, on a bien peur que le radicalisme dans lequel certaines personnes se sont plongées aujourd'hui ne fasse pas aboutir ce débat. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, voyez-vous, un pays qui a gagné haut la main un procès au niveau des instances mondiales concernant la zone de Bakassi, après cette haute lutte, on veut faire croire aujourd'hui aux gens qu'il faut remettre en question l'intégralité ou la totalité du territoire camerounais. Et acquis par des moyens, par des voies légales. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se pose au Cameroun, c'est un problème de dégagisme. Mais quand on regarde que le président Paul Biya a été élu, et je profite de ce que l'auditeur... le compatriote vient de dire tout à l'heure.
Il dénonçait le MRC en disant que le MRC prenait en otage le peuple camerounais.
Oui, mais vous voyez qu'il y a des petits détails. Il y a des petits détails anodins semblent ne rien valoir, mais qui pourtant, il dit très bien que quand on a proclamé les résultats, aucun président du monde n'a adressé les félicitations à M. Kamto. Alors, si donc cette communauté internationale qu'on nous brandit aujourd'hui, qui dit être tout ce qu'on veut, pourquoi n'ont-ils donc pas, en aucun moment, envoyé une lettre de félicitations comme ça se fait pour un homologue, pour
un
frère qui va être président de la République, lui dit bon voilà.
On connaît des présidents élus qui ne gouvernent jamais et qui sont en résidence surveillée. Par exemple, on peut parler du Gabon également. Bon, vous êtes d'accord donc avec Serge qui dit finalement la crise post-électorale est derrière nous, c'est ce que vous dites, Martial.
Oui, je voulais ajouter à cela.
On peut préciser quand même que des militants du MRC sont emprisonnés. Hein.
Oui, mais, voilà. Madame Adman, ces personnes sont emprisonnées pourquoi ? Pour une marche qui n'avait pas lieu d'être. Donc maintenant, puisque se sont entêtés, puisqu'ils veulent défier l'État, et c'est pour ça qu'il faut voir à travers ce dialogue que le président est en train d'accepter, que certains n'entrent pas dans un radicalisme. La forme de l'État dont on parle. Pourquoi on doit discuter de la forme de l'État? Il y a un État qui est là. Maintenant, si des gens ont des griefs ou des réclamations à faire, qu'ils les fassent tranquillement, sans pour autant demander à un président élu de partir, sans pour autant prétendre qu'on ne se sent pas camerounais. Je dis, tout cela est faux. Parce que moi, je vous dis, dans ma famille, il y a des, je me rappelle à l'époque, mon papa avait un collègue qui était de congrégation musulmane, mais qui était son fidèle ami. Qui était de confession musulmane, qui était son fidèle ami. Mais c'est curieux aujourd'hui qu'on vienne nous faire croire que non, les gens ne s'entendent plus parce qu'ils sont anglophones, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Donc, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je redoute que certains entrent et qui se sont inscrits dans la liste des radicalistes, mais qu'ils refusent tout dialogue. C'est ça qui est à redouter. Le président peut lui attendre la main, oui, mais est-ce que les gens qui seront en face, s'il y a même des gens en face, ne seront pas plongés dans un radicalisme.
C'est très clair.
Qui fera quoi?
D'ailleurs, le Premier ministre a précisé que certaines, notamment peut-être la forme de l'État, n'étaient pas mis sur la table, c'était pas des sujets mis sur la table du dialogue. Merci beaucoup, Martial, de votre participation. On va écouter Kwame. Bonjour, Kwame.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur Kwame. Vous vouliez revenir sur ces déclarations d'un homme politique français, Nicolas Dupont-Aignan, ancien Nicolas candidat à l'élection présidentielle, il doit être maire d'hier, et qui a dit dans un tweet sur un média français que l'Afrique devait introduire un contrôle des naissances, comme en Chine. Ça vous a fait bondir?
Ça m'a fait bondir dans mon sommeil, ça m'a réveillé net. Vous voyez, ce monsieur, vous-même vous entendez son nom, il s'appelle Dupont-Aignan. Quelqu'un, ses parents l'ont mis sur le pont, il est né sur un pont, c'est pour ça qu'on l'appelle Dupont. Quand tu ressembles à un mouton, le brun t'appelle Michel Mouton. Voilà. Aujourd'hui, donc, il va envoyer des gardes pour surveiller nos femmes dans nos lits. Pour que si on doit faire deux, trois, c'est lui qui doit nous dire. Si nos parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas fait d'enfants, est-ce qu'ils allaient partir en Afrique les ramasser pour venir combattre pour la France? Voilà, c'est manque de respect. Et nos chefs d'État, nos sous-préfets qu'ils ont choisis, ils ont mis en Afrique, ils ne peuvent même pas soulever le petit doigt parce qu'ils ont les mains liées. Toute leur fortune se trouve en Europe. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas. La seule personne qui peut réagir, c'est Gbagbo, c'est Paul Kagame, Thomas Sankara, et voilà des gens qu'ils ont éliminés. Aujourd'hui, Sankara n'est plus. Aujourd'hui, ils ont fini à eux son successeur, et lui, il est en exil partout. Voyez, ce monsieur ne respecte pas l'Afrique. Un, deux, trois, ils sont pleins en Afrique. Si l'Afrique est si pauvre et qu'on fait plein d'enfants, qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Qu'ils nous laissent en paix. Comme ça, nous, on va rester chez nous en Afrique. On ne viendra pas les emmerder sur leur sol. Aujourd'hui, tu vas en Côte d'Ivoire, il y a plus de blancs que de noirs, même à Abidjan. C'est inadmissible. Voilà. Et je dis de contrôler les naissances. Quand nous, on met nos enfants au monde en Afrique, on les nourrit. Est-ce qu'on demande à la France de venir donner à manger à quelqu'un là-bas? Nous avons assez de terre. Nous pouvons assez cultiver pour nourrir toute la planète. Voilà. C'est eux qui foutent la politique, leur politique. Avant chez nous, on a ce qu'on appelle là-bas. Ça, c'est notre démocratie à nous. Quand deux personnes se battent dans un village, le chef du village les appelle en bas de l'arbre et on discute. Et c'est ça, une sous-forme de démocratie. Mais ils sont allés nous imposer leur démocratie et ils veulent que nous, on respecte ce qu'ils disent. C'est pas possible, nous ne sommes pas des enfants. Ils sont allés nous coloniser, ça fait 60 ans, 62, 63 ans, pour quelques-uns, que nous sommes indépendants. Mais ils ne veulent pas nous lâcher.
Bon.
C'est pas possible.
Merci, Kwame, pour votre coup de gueule. Voilà. On a bien compris, merci Kwame, qui comprend pas pourquoi cet attachement de certains politiques français au contrôle des naissances sur le continent africain. On va revenir rapidement avec Monsieur Danone sur les affrontements communautaires de Béoumi. Monsieur Danone, bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur. Alors.
En fait, aujourd'hui, je vais faire une analyse et puis en même temps conclure en vous disant quelque chose de très important. Tout ce que se passe en Côte d'Ivoire. Vous savez, on a un problème en Côte d'Ivoire, c'est un problème d'identification. Et ce problème, tant qu'on n'a pas pu remédier à ce problème, on ne pourra jamais s'en sortir avec nos frères de la communauté CDAO qui nous entourent. Quand il y a eu ces affrontements, les gens parlaient des djoulas. Mais non, les djoulas, c'est, le mot djoulas, c'est, ça veut dire commerçant. Nous avons des djoulas, des commerçants en Côte d'Ivoire. Mais ces commerçants, ils aiment bien la Côte d'Ivoire. Et je me vois, je ne peux pas imaginer qu'un homme du Nord peut prendre des fusils pour aller contre quelqu'un du centre. Non, ça n'existe pas. Mais on a un problème très sérieux avec nos frères. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire récemment. Il y a eu un cas chez nous, dans mon propre village, réciproque, comme à Béoumi. Mais les villageois ont su anticiper parce qu'il y a un des ressortissants de la CDAO, je ne nommerai pas le pays, qui allait égorger un de ses compatriotes à cause d'une femme. Et ça a révolté, ils ont pensé que c'est les villageois qui avaient fait cela. Mais après l'enquête, ça se trouve que ce dernier même qui est allé chercher l'un de ses frères avec une jeune fille de 14 ans, la fille a été forcée à un mariage et cela a entraîné un litige. À l'issue de cela, son amant est venu l'égorger dans le village.
On est loin de l'analyse là, monsieur Danone. C'est-à-dire, vous voulez expliquer quoi ?
Je voulais expliquer que si aujourd'hui nos frères de la Côte d'Ivoire ne se distinguent pas de nos frères de la CDAO, nos frères du nord de la Côte d'Ivoire n'arrivent pas à s'identifier hors de nos frères de la CDAO, nous aurons toujours ces problèmes. Parce que eux, quand ils viennent, qu'on les reçoit, qu'on les accueille dans nos villages, ils veulent s'imposer. Bon. Ils vont s'imposer de sorte que, pour même minimiser même les lois que nous, à l'intérieur des villages, les gens, ils ont les règles et ils ne veulent rien respecter. On a eu le cas à Djokoui, on a eu le cas à Boaké, on a eu le cas à Béoumi. Partout où ils sont installés. Et comme les gens n'arrivent pas à identifier nos frères du Nord, à chaque fois ils disent les djoulas. Et les djoulas, ça donne notre étiquette à nos parents du Nord. Non, non. Et c'est cela qui est très important. Il faudrait que nos autorités aujourd'hui arrivent à identifier nos frères de la CDAO qui sont avec nous. Leur donner leur place. Quand on vient trouver quelqu'un dans son pays, on respecte ses règles. Nous sommes en France ici, il y a des règles qu'on respecte. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est cela qui fait qu'aujourd'hui, nos autorités aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, eux, ça les arrange parce que...
En fait, vous voudriez, si je comprends bien, M. Danone, vous voudriez un plus grand contrôle de la politique migratoire de la Côte d'Ivoire, une plus grande fermeté, exactement, comme on dit en France, finalement, de la politique migratoire. C'est très clair. Merci, M. Danone, de votre contribution à cette libre antenne. Danone qui revenait sur les conflits intercommunautaires. À Béoumi, on va parler de la Centrafrique désormais avec Christian et Denise. Denise, bonjour. Bonjour Denise.
Bonjour Madame Stéphanie.
Bonjour Madame Denise. Vous vouliez revenir sur la Centrafrique où où des groupes armés ont commis une nouvelle tuerie il y a quelques jours, c'est bien ça ?
Oui.
Dans l'ouest du pays. Vers Poua.
Oui, vers Pawa, Kabo, là où le monsieur Sidiki, qui est nommé comme conseiller à la primature, que ce monsieur, ses éléments ont appelé...
Le groupe, c'est les 3R, si je m'en souviens bien.
Oui, les 3R. Je ne sais pas ce que lui, il revendique en tant que peuple camerounais. Il revendique quoi en Centrafrique? Il est là et il est par rapport à l'accord de Khartoum, il est nommé comme conseiller spécial auprès du Premier ministre. Donc ces éléments sont partis dans un village, ils ont appelé les gens pour venir faire une réunion.
Et est-ce qu'il a toujours le contrôle sur ces éléments, ma chère Denise? Parce qu'on m'en rappelle quand même que plus de 50 civils ont été tués dans une série d'attaques attribuées au groupe armé 3R, retour, réclamation, réconciliation, donc autour de la ville de Pawa. Et le président, Faustin Archange Touadéra, a décrété 3 jours de deuil nationale. La MINUSCA, d'ailleurs, a donné et la Centrafrique et l'État centrafricain ont donné un ultimatum au leader du groupe 3R pour qu'il livre dans les 70 heures les auteurs présumés du massacre et qu'il démantèle ses installations.
C'est des chansons. La MINUSCA ne fait que chanter. Je me demande, qu'est-ce que les Centrafricains ont fait pour mériter tout ça de la communauté internationale? La MINUSCA est en train de nous faire dormir.
En même temps, c'est pas la MINUSCA qui a massacré les gens, Denise, non?
Non, mais la MINUSCA, il est là pour faire quoi? La MINUSCA refuse à ce que les forces armées centrafricaines puissent aller dans les zones pour protéger le peuple. Mais il préfère à ce que les groupes armés, c'est eux qui doivent rester là. Mais la MINUSCA dit c'est lui qui doit protéger le peuple. Mais la MINUSCA attend à ce que on tue d'abord les gens pour qu'ils puissent déployer, qu'ils rentrent chez eux, la MINUSCA. Mm. La communauté internationale n'a qu'à vraiment nous laisser quand même en paix.
C'est pas faux.
Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça, madame Stéphanie?
Merci Denise. Merci Denise. Denise, aussi beaucoup d'émotions dans votre intervention, Denise, qui... finalement accuse Denise, la communauté internationale d'être responsable des crimes de la situation en Centrafrique. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour Christian. Vous entendez Denise finalement qui dit c'est de la responsabilité de la MINUSCA. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord?
En quelque sorte, elle a raison, parce qu'il y a peut-être une semaine, c'était le vendredi passé, j'avais intervenu uniquement par rapport à ces gens qui ont été nommés par rapport au groupe Rébellion. Lui, s'il dit qu'en question, c'est un peu le Camerounais, ou soit la communauté internationale, ils n'ont qu'à nous dire ouvertement qu'ils sont en train de chercher à créer, je ne sais pas, un état des peuples en Centrafrique, diviser la Centrafrique pour créer l'état des peuples. Vers Bombari, il y a l'autre qui est là-bas, vers Pawa, il y a Sidi qui est là-bas. Par rapport à ce que Denise a dit, dans l'intervention de porte-parole du gouvernement, c'est le porte-parole du gouvernement, il a donné l'ultimatum de 72 heures à Sidi qui livrait ses hommes. Mais au moment que le porte-parole de MINUSCA a voulu parler, la dame a fait le jeu des mots. Elle n'a pas voulu utiliser les mêmes vocabulaire que le porte-parole de gouvernement, autant normalement elle devait parler dans ce sens. Donc c'est-à-dire qu'il y a un jeu en Centrafrique. Le porte-parole de l'autre groupe rébellion, Ngaïsona, il a été arrêté, transféré à la haie, parce qu'il est que le représentant du groupe rébellion, c'est pas lui qui a tué. Ce sont les Balaka qui ont tué, mais lui, il a été arrêté par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui...
C'est ta responsabilité, c'est le commandant des troupes qui est responsable.
Voilà, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas à lui dire de livrer...
Et donc, Christian, quand finalement Denise dit qu'il faudrait que la MINUSCA parte, vous êtes d'accord, même si ce n'est pas du tout les points de vue des autorités?
Je suis tout à fait d'accord, parce qu'à l'époque, on avait plus de 1000 à 5000 hommes. Mais avec ces 4000 à 5000 hommes là, on contrôlait notre territoire avec. C'est dommage que...
Christian, il ne faudrait pas refaire l'histoire cependant, parce que même avant l'arrivée de la Séléka, le territoire centrafricain restait largement contrôlé par de multiples groupes armés. Merci Christian. On va écouter, on arrive presque à la fin de l'émission, écoutez Kevin. J'ai deux Kevin. J'ai Monsieur Kevin qui voudrait revenir sur les propos de Monsieur Danone concernant l'immigration en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Atman. Comment vous allez?
Oh, ça va. Et vous-même?
Ben écoutez, ça va. Il fait très beau à Nantes, donc ça va. Alors, je souhaiterais revenir sur les propos de mon frère ivoirien. En fait, il y a un truc qu'il a oublié. En fait, ceux qu'il appelle immigrés, ce ne sont pas des immigrés. C'est des gens qui sont venus en Côte d'Ivoire avant les indépendances. Si aujourd'hui la Côte d'Ivoire atteint certains niveaux de développement, c'est grâce à ces immigrés. On a eu un président du nom de Félix Houphouët-Boigny qui nous a dit que la Côte d'Ivoire appartient à celui qui la met en valeur. Voilà, donc je pense que mon frère ivoirien doit méditer ses paroles avant de dire certaines choses. C'est ce que je cherche à rectifier sur ses propos.
Ouais, vous êtes le bienvenu, monsieur Kevin. Vous l'avez fait, voilà. Bonne journée.
Voilà, merci à vous également et puis bon week-end.
Bon week-end, merci. Reposez-vous bien, Kevin. Kevin numéro 2, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Kevin. Vous voulez reparler de la Centrafrique? Vous avez entendu Kevin, pardon. Vous avez entendu Denise et Christian qui finalement ont pointé du doigt la communauté internationale?
Alors, moi, je voudrais tout simplement revenir sur les accords de Bangui et dire ceci.
Les accords de Khartoum, peut-être,
les
plus.
Les accords de Khartoum, on aurait souhaité que ça soit écrit les accords de Bangui, mais bon, c'est pour ça. Je voudrais dire qu'il y a un souci par rapport à la compréhension de cet accord par rapport aux parties signataires. Il se trouve que dans cet accord, il était prévu le déploiement des FACA sur tout l'étendue de territoire avec des troupes mixtes rebelles. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec des forces armées de foi qui se déplacent dans une région et qui se trouvent opposées aux rebelles qui ne veulent pas de leur déploiement. Ce qui pose problème. Et je voudrais vraiment que la communauté internationale aide le gouvernement centrafricain à expliquer l'accord en elle-même à ces troupes-là. Parce que je pense qu'ils ne comprennent pas ce qu'on appelle un troupe mixte d'intervention. Et voilà, la mixité n'y est pas. Eux, ils veulent pas que les troupes gouvernementales, les forces armées centrafricaines se déplacent sur le territoire, alors que c'est dans ces accords-là. Et c'est ce qui pose problème. Et c'est aussi ce qui pose problème aussi, c'est le niveau de compréhension des gens qui signent ces genres d'accords. Je pense que les partis signataires rebelles ont certes des représentants, je ne sais pas quel niveau ils ont, mais ils ont une manière de fois de l'interpréter à leurs troupes qui ne correspondent pas à la réalité des accords. Donc c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale de faire ce travail en quelque sorte d'après-vente, d'expliquer à ces gens que vous avez signé quelque chose et que vous êtes censé le respecter et pour qu'il y ait un retour de la paix. Et le retour de la paix ne passe que par les forces institutionnelles qui sont les forces armées centrafricaines mélangées avec les troupes rebelles. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez signer un accord et aujourd'hui voir les forces armées débarquer dans votre région et vous dire non, vous dire dénoncer que vous êtes agressé? Il y a un problème.
Il y a un problème, nous dit Kevin. Merci Kevin de votre participation. On aura peut-être l'occasion de revenir la semaine prochaine sur l'actualité centrafricaine. Vous l'entendez, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas à continuer le débat sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, facebook.com/journaldesauditeurs, le compte Twitter, @jauditeur, mais et bien sûr aussi le répondeur, le 33 1 55 07 58 05. Vous pouvez nous laisser vos messages à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Lundi, normalement, vous retrouverez Nadir Djennad aux commandes de l'émission. Je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine.